Chapitre 21. Intermède spatial. Ils franchirent sans encombre le blocus. Dans l'immensité de l'espace, toutes les flottes de l'univers ne parviendraient pas de toute manière à assurer l'étanchéité d'un seul secteur. Il suffit d'un vaisseau sans escorte, d'un pilote habile et d'un peu de chance pour que le blocus le plus sévère se transforme en passoire. Calmement, posément, Thoran pilotait son vaisseau d'une étoile à l'autre, ignorant les protestations de son engin qui n'appréciait guère visiblement de frôler ainsi les astres au mépris des consignes techniques les plus élémentaires. Mais si la proximité d'une masse stellaire importante rendait pour le moins hasardeux les sauts interstellaires, elle rendait également les moyens de détection ennemis quasi inopérants, ce qui était bien évidemment le but premier de la manœuvre. Franchir la ceinture de vaisseau, c'était également sortir de la sphère d'isolation communicationnelle, cet espace mort à l'intérieur duquel le subéther ne pouvait plus porter le moindre signal. Pour la première fois depuis plus de 3 mois, Thoran eut la satisfaction de penser qu'il n'était plus isolé du reste de l'univers. Une semaine s'écoula avant que les bulletins d'informations ennemis se mettent à diffuser autre chose que les rapports sur le contrôle de plus en plus serré qui s'exerçait sur la Fondation. Durant tout ce temps, le vaisseau marchand de Thoran, doté de tout son armement, ne cessa de s'éloigner de la périphérie en multipliant les hypersauts pour se rapprocher sans cesse davantage du centre de la galaxie. Ebling Miss appela Thoran, qui se trouvait dans la cabine de pilotage, occupé à lire ses cartes, et celui-ci releva la tête en clignant péniblement des yeux.
Qu'est-ce qui se passe ? Demanda-t-il en descendant jusqu'à la partie centrale du vaisseau, une cabine exiguë que Beta n'avait pu s'empêcher de convertir en coin salon.
Je n'en sais foutrement rien,
dit Miss en secouant la tête.
Les hommes du mulet annoncent un bulletin d'information spécial. Je pensais que vous voudriez peut-être l'écouter.
Pourquoi pas ? Maintenant que je suis là,
où est Beta ? Elle dresse la table du dîner, compose le menu. Enfin, une frivolité de ce genre.
Thoran s'assit sur la couchette qui servait de lit à Magnifico et attendit. L'appareil de propagande entourant les bulletins spéciaux du mulet se répétait avec une monotonie désespérante. D'abord une musique martiale, puis la voix onctueuse du présentateur. Venaient ensuite les nouvelles généralement insignifiantes, puis un silence, puis une fanfare de trompette, la tension qui montait et l'apothéose. Thoran subit tout cela sans rien dire, tandis que Miss bougonnait dans son coin. Usant de la phraséologie coutumière aux correspondants de guerre, le présentateur débita avec onctuosité une série de lieux communs par lesquels il entendait rendre compte de l'issue d'une nouvelle bataille spatiale. Le métal fondu, la chair martyrisée, désintégrée, tout cela était évoqué avec un égal détachement.
Des escadrons de croiseurs rapides, sous le commandement du général Samin, ont contre-attaqué violemment aujourd'hui, repoussant l'offensive ennemie en provenance d'Is.
Le visage soigneusement inexpressif du présentateur disparut de l'écran, pour céder la place aux images. On vit alors une série de vaisseaux passer à toute allure devant la caméra, au beau milieu de l'espace, au cours d'une offensive visiblement meurtrière. La voix continua, surmontant d'autant plus facilement le fracas du combat que le son n'en était pas retransmis.
L'épisode le plus remarquable de la bataille a été sans conteste l'affrontement livré par le croiseur lourd Léviathan contre 3 appareils ennemis de classe Nova.
La caméra pivota et un plan rapproché apparut sur l'écran. Un grand vaisseau ouvrit le feu et l'un de ses attaquants sortit brutalement du champ, vira de bord et fonça sur lui. Le Léviathan s'inclina violemment et survécut au coup qui n'avait fait que l'effleurer, tandis que son attaquant, une fois de plus, sortait du champ. Le commentaire, suave et impassible, du présentateur se poursuivit tant qu'il resta un seul vaisseau ennemi en état de combattre. Puis, il y eut un silence, suivi d'un autre reportage en tout point semblable sur un combat qui avait eu lieu au large de Mnémon, agrémenté toutefois de la description interminable d'un débarquement suivi d'un assaut en règle, avec à l'appui de nombreuses images d'une ville anéantie
et de prisonniers épuisés, entassés par petits groupes. Mnémon n'en avait plus pour longtemps. Nouveau silence. Puis le fracas attendu des cuivres. Une nouvelle image apparut sur l'écran. On vit le porte-parole du gouvernement, en uniforme de conseiller, s'avancer entre une haie de soldats impressionnante. Un silence oppressant régnait. Une voix s'éleva enfin. L'homme s'exprimait sans hâte, avec une solennité confinant parfois à la rudesse.
« Par ordre de notre souverain. J'annonce que la planète Oasis, qui jusqu'alors s'opposait ouvertement à sa volonté, vient de reconnaître pleinement sa défaite. En ce moment même, les forces de notre souverain procèdent à l'occupation de la planète. L'opposition, dispersée, mal coordonnée, a été rapidement écrasée. »
La scène s'effaça et le présentateur reparut pour annoncer d'un ton grave que l'on donnerait de nouvelles informations au fur et à mesure du déroulement des événements. Puis, il y eut de la musique de danse et Ebling Miss rétablit le chant de force qui coupa la réception. Doran se leva et s'éloigna d'un pas chancelant, sans un mot. Le psychologue ne fit pas un geste pour le retenir. Lorsque Beïta sortit de la cuisine, Miss lui fit signe de se taire.
« Ils ont pris Oasis, » dit-il.
« Déjà, » s'étonna Beïta, ouvrant de grands yeux incrédules, où se lisait néanmoins le plus profond désespoir.
« Sans combat, sans même livrer un foutu !»
Il s'interrompit et déglutit.
« Vous feriez mieux de laisser Doran tranquille, c'est dur pour lui. » Si nous mangions seuls pour cette fois.
Beïta jeta un coup d'œil vers la cabine de pilotage, puis haussa les épaules d'un air désemparé.
Très bien.
Magnifico s'assit discrètement à table. Il ne parlait pas, il ne mangeait pas. Il se contentait de regarder droit devant lui, paralysé par une peur qui semblait absorber toute son énergie. Ebling Miss repoussa d'un air absent son sorbet aux fruits et dit d'une voix rauque
« Deux mondes marchands luttent encore. Ils lutteront jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Et pourtant, Oasis, exactement comme la Fondation.
Mais pourquoi? Pourquoi?
Nous voilà avec une nouvelle pièce du puzzle, »
dit le psychologue en secouant la tête.
Ça en fait partie comme le reste. Si bizarre et incompréhensible que cela puisse nous paraître, cela nous aide à mieux comprendre la véritable nature du mulet. Demandons-nous tout d'abord comment il a pu conquérir la Fondation presque sans coup férir et du jour au lendemain, en une seule attaque, alors que les mondes marchands indépendants ont résisté tant qu'ils ont pu. La paralysie de nos appareils nucléaires n'a eu que des conséquences mineures, finalement. N'y revenons pas, nous en avons déjà discuté plus qu'assez, et cela n'a marché que sur la Fondation. Randu suggérait,
reprit Ebling en fronçant ses sourcils grisonnants,
qu'il aurait pu s'agir d'un annihilateur de volonté à rayonnement. C'est ce qui a peut-être été utilisé sur Oasis. Mais alors, pourquoi ne pas l'avoir employé sur Mnémon et Is, qui maintenant encore lutte avec une détermination si farouche qu'il faut la moitié de la flotte de la Fondation, outre les forces du mulet, pour les vaincre. Car j'ai reconnu dans les attaquants des vaisseaux de la Fondation.
D'abord la Fondation, maintenant Oasis, murmura Beïta. On dirait que le malheur nous poursuit sans jamais nous atteindre. Il s'en faut toujours d'un cheveu, mais nous nous en tirons. Cela durera-t-il toujours ? Ebling Miss ne l'écoutait plus. Il réfléchissait tout haut désormais.
Mais il y a un autre problème, Beïta. Vous vous souvenez de ce bulletin d'information annonçant que le bouffon du mulet n'avait pas été trouvé sur Terminus? On pensait qu'il s'était enfui sur Oasis, ou avait été conduit là par ceux qui l'avaient emmené. On semble attacher beaucoup d'importance à ce personnage, Beïta. Une importance que les récents événements ne font que confirmer. Pourquoi ? Nous n'en savons rien, finalement. Magnifico sait sûrement quelque chose. Quelque chose qui serait fatal au mulet, s'il venait à le divulguer, j'en suis sûr.
Magnifico, blanc comme un linge, protesta aussitôt, balbutiant.
« Seigneur, noble seigneur, je vous jure qu'il n'est pas en mon pouvoir de satisfaire vos désirs. J'ai dit tout ce que je savais, et à l'aide de votre sonde, vous avez arraché à mon esprit malingre tout ce que je savais d'autre, sans même savoir que je le savais. »
« Bien sûr, bien sûr. » Mais nous cherchons en fait un tout petit détail. Un détail si insignifiant que ni toi ni moi n'en reconnaissons l'importance. Il faut pourtant que je le trouve, car Mnémon et Iss ne vont pas tarder à disparaître, et alors nous serons les derniers survivants, les ultimes vestiges de la Fondation indépendante.
Quand on pénètre au cœur de la galaxie, les étoiles commencent à se rapprocher de plus en plus les unes des autres. Les champs de gravité commencent à se chevaucher, à des intensités suffisantes pour créer des perturbations non négligeables dans les sauts interstellaires. Thoran s'en aperçut lorsqu'un saut les amena directement sous les feux d'une étoile rouge qui s'efforçait de les attirer et dont ils ne parvinrent à fuir l'attraction qu'après 12 heures d'efforts inouïs. Ne possédant que des cartes d'une portée limitée et une expérience assez maigre sur le plan opérationnel ou mathématique, Thoran se résigna à effectuer plusieurs jours de calcul entre chaque saut. Ils s'y mirent tous. Ebling Miss vérifiait les calculs mathématiques de Thoran et Beïta contrôlait les itinéraires possibles. Même Magnifico fut mis à contribution. On l'affecta à la machine à calculer, ce qui l'amusa beaucoup dès qu'on lui eut expliqué le fonctionnement de l'appareil. Il se révéla étonnamment doué à cet exercice.